Quel message vous auriez envie de laisser à vos enfants, à vos petits-enfants? C'est une question compliquée, importante. Et aujourd'hui, je reçois Yann Arthus Bertrand, qui sort un film qui s'appelle Legacy, qui sera disponible mardi ce soir sur M6, et que je vous invite très très chaudement à regarder. Et avec Yann, on parle de très nombreux sujets. Évidemment, il nous raconte des histoires incroyables. Il nous raconte également des choses qui sont parfois un peu moins rigolotes, qui nous mettent face à nos contradictions. C'est une discussion vraiment profonde où on rentre dans l'humanité, dans l'humanisme. Et je vous conseille vraiment de l'écouter jusqu'au bout, parce que pour ne rien vous cacher, la conclusion, le volant, on l'a enregistré en 3 fois. En fait, on avait tout emballé et finalement, on a repris parce que il m'a raconté des choses ensuite qui étaient tellement belles que j'ai voulu les rajouter simplement. Donc, c'est un très long volant à la fin. Bref, tout ça pour vous dire que je vous invite vraiment à écouter cette conversation. Allez, volant, c'est parti. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Yann.
Salut. Ça fait longtemps qu'on devait travailler ensemble.
Ça devait longtemps
qu'on devait. Tu me cours après. Hein. Je suis désolé.
Comme quoi, j'ai de la volonté.
Il y avait un film à finir.
Ben, je sais bien. Et on va parler de ce film, justement, qui s'appelle Legacy, qui est sans doute le film que tu as fait qui m'a le plus touché. Pas que les autres ne m'aient pas touché du tout, mais celui-là en particulier. Ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi ce film, pourquoi maintenant ?
D'abord, j'avais fait Home il y a 10 ans, qui était un film important, c'est un film dont on me parle tout le temps, et j'avais l'impression que tout ce que j'avais dit dans Home, il fallait faire une mise à jour. Tout l'espoir que je donnais dans Home, tu vois, il est trop tard pour être pessimiste, en une journée, en une heure, le soleil donne l'énergie assez pour l'humanité entière, il faut qu'on ait des panneaux solaires, il faut qu'on ait des éoliennes, et quand j'avais fait le film, à ce moment-là, je croyais vraiment qu'on allait changer. Donc, il y avait. J'étais persuadé d'ailleurs qu'on allait changer tous. Et en fin de compte, aujourd'hui, on n'a rien changé du tout. On consommait 90 millions de barils de pétrole il y a 10 ans. On en consomme 100 millions aujourd'hui. Et les énergies renouvelables, dont on parle énormément, se sont additionnées au reste. Elles n'ont pas enlevé les énergies fossiles. Le charbon est encore la deuxième énergie consommée dans le monde. Je crois que le pétrole, c'est... Alors, j'ai dit beaucoup de chiffres, que je suis un malade de chiffres.
Non, bien sûr. Ben, moi,
je pense que le pétrole, c'est presque 50% de l'énergie. Voilà, le charbon, c'est près de 40%. Donc, toi, on est encore dans l'ère du charbon, ce qui est la pire chose pour l'environnement. Le pétrole aussi, d'ailleurs. Donc, Et surtout, moi je suis un fan de Jean Covici, je dois reconnaître, et j'avais envie, cette histoire de l'énergie me taraudait, j'avais envie de raconter la belle histoire de l'énergie, peut-être que voilà l'énergie de l'animal, l'énergie de l'homme, et c'est l'énergie des morts, parce qu'en fin de compte, notre énergie c'est l'énergie des animaux morts pendant des millions d'années qui ont stocké de l'énergie pour nous. Et l'histoire est fantastique, cette histoire incroyable de l'énergie de l'homme, son intelligence, son entraide, sa façon de réussir. Et je voulais faire un film là-dessus. L'année dernière, on était sur mon film Woman, qui est un film important sur les femmes. Donc, je ne pouvais pas faire ce film dans les bout de 10 ans. Et c'est un film que j'ai eu du mal d'ailleurs à vendre parce que pratiquement aucune chaîne de télé ne voulait l'avoir. Parce qu'ils trouvaient que j'étais trop pessimiste. Voilà, j'avais fait un petit draft expliquant ce que je viens de dire. Et mais on veut de l'espoir. Et bon. Et ouais, mais l'espoir nous cache la réalité quelque part. On est tous un peu comme ça. Mais on veut tous de l'espoir. Moi aussi, je veux de l'espoir. Et c'est un film qui finit d'ailleurs sur l'espoir, mais peut-être pas sur l'espoir, sur une réalité. Et voilà. Et c'est un film que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à faire parce que on a passé 1 an de montage qui est énorme pour un documentaire. On a travaillé avec des archives. C'est un film qu'on a fait à l'économie qui a coûté 12 fois moins cher que Home. Donc, tu vois, c'est des images qui avaient déjà été tournées. On a acheté beaucoup d'images. Pas énormément, mais surtout, on a fait tourner des dronistes par téléphone. On parle à des dronistes, que ce soit un droniste brésilien pour filmer l'incendie du Brésil, que ce soit américain pour filmer les gaz de schiste, que ce soit les usines de cochons en Chine, le charbon en Pologne, a été tourné par des dronistes à qui on a commandé des images. C'est pas toujours vraiment ce que tu as envie, parce que tu es habitué à faire de l'aérien et que le drone, c'est pas comme l'hélico, mais ça suffisait. Et j'ai tourné en drone. New York, on a toujours donné quelques petits trucs en drone. Voilà, on a essayé de faire un film le plus raisonnable On a tendance à tout, dans le cinéma, à dépenser beaucoup d'argent. C'était surtout quand on fait un film avec Luc Besson, t'as des gros moyens. Quoi. Et là, on a essayé de faire à l'économie. Et en même temps, c'était très émouvant de faire ce film. En écrivant ce film avec Franck Courchamp, avec qui est un scientifique, génial. Je le reconnais, on s'est tellement bien entendu. Et il me disait l'autre jour, tu sais, Yann, on a fait un bon film parce qu'on est les mêmes. Et c'est vrai que quand on écrivait le film, il y a des moments où on se regardait et on avait les larmes aux yeux, on n'avait plus à parler. Tu sais, quand t'as un truc dans la gorge, parce que ce qu'on disait était trop difficile et trop compliqué, et on est un peu des sensibles, hyper sensibles tous les deux. Voilà. Et à la fin du film, j'ai essayé de faire une fin, qui me ressemble, quoi, en parlant de bienveillance, de que c'est pas. Bon, c'est un film qui explique que tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est pas là. Il n'y a pas de lobby. Il y a des lobbies, mais il y a des lobbies aussi, des lobbies écolos. C'est-à-dire, personne nous oblige à mettre du pétrole dans notre bagnole, personne nous oblige à manger de la viande industrielle, personne nous oblige à manger des légumes qui ont été traités avec du Monsanto, même si il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement. Mais voilà, il y a une espèce. Il y a beaucoup de choses qu'on peut changer, et on n'est pas capable de changer parce qu'on a une espèce de banalité du mal. Hein, c'est pas moi qui ai inventé le mot, hein. C'est une célèbre philosophe israélienne, mais. Voilà, Hannah Arendt, mais tu vois, cette espèce de banalité dans laquelle on vit, où c'est pas grave, on le fait un petit peu, et à force, ces millions de pas graves, ces milliards de pas graves font que ça devient grave.
Voilà. Il y a deux choses que j'aimerais, sur lesquelles j'aimerais rebondir. La première, c'est l'image que tu prends dans le film autour des 24 heures, que je trouve extrêmement claire, parce que quand on parle d'énergie fossile, bah, du coup, ça permet bien de comprendre qu'il y a, effectivement, on s'appuie sur... des heures hein, de fossiles, cette image-là. Et après, qu'on rentre effectivement dans le « c'est pas grave » et de l'action de tout à chacun. Parce que je trouve que c'est effectivement hyper intéressant.
Tout à chacun, on rentre pas tellement dedans. On a mis une liste à la fin, parce qu'on devait la mettre. Que je pense qu'on peut pas laisser les gens comme ça, à poil, devant ces conclusions. Qu'est-ce que je vais faire ? Donc on a mis des conclusions que je pense assez larges, en fin de compte, en parlant de politique. Mais... C'était quoi ta question déjà ?
La première, c'était de rebondir sur de raconter l'histoire des 24 heures.
Oui, parce que quand tu racontes l'arrivée de l'homme qui arrive quelques minutes avant minuit, et surtout l'énergie fossile qui arrive à un clignement d'œil, quoi, je crois que c'est un dixième de millier de seconde. Alors, je ne sais pas exactement le chiffre, je ne suis pas trompé, mais
non, c'est arrive,
ce pétrole qui arrive à un clignement d'œil. Depuis le début du monde, quoi. Si on estime que la fabrication de la vie sur Terre a pris 4 milliards d'années, le pétrole, il arrive à un clignement d'œil avant minuit, donc c'est assez impressionnant. Et puis, ce qui m'a intéressé, c'est de raconter, et ça, c'est tout le monde, les gens ne savent pas ça, c'est que il n'y avait pas de Terre au début. La Terre, c'était comme un gros caillou, et qui a une espèce de miracle dû au soleil, à la distance, à l'eau qu'il y avait sur la Terre. Il y a la photosynthèse, et donc les plantes sont arrivées, les animaux, et toute la terre a été fabriquée par ces milliards d'animaux morts qui ont fabriqué notre humus. Voilà. Tout cet humus, c'est du végétal, et ça, c'est une chose que les gens ne savent pas. Et ce qui est aussi, on a beaucoup parlé des arbres, pourquoi les arbres sont beaucoup plus anciens que nous, hein, qu'ils ont 400 millions d'années. Et ce qu'on ne sait pas aussi, c'est que le tronc d'un arbre, il ne vient pas de la terre. Il vient de la chimie, de la photosynthèse, sur le carbone qu'il y a dans l'atmosphère, et de la lumière qui fabrique la matière. Cette matière est fabriquée par le ciel. Et quand tu brûles, quand tu brûles une bûche dans ta cheminée, ben, tu renvoies dans le ciel ce qu'il a donné. Et toute ta cendre, ben, c'est les oligo-éléments que l'arbre a pris dans la terre. Alors, bien sûr, les arbres se nourrissent avec les champignons, tout ça, mais la matière de l'arbre est faite par la photosynthèse. Et ça, c'est assez extraordinaire de penser à ça. Et toute la terre sur laquelle tu marches a été fabriquée, avec du sable aussi, mais surtout par les animaux. C'est milliards de plantes et d'animaux morts. Et puis, donc, cette histoire. Et je pense que si tu veux raconter ce qui arrive aujourd'hui, il faut que tu partes du début. Et on part aussi de la grotte Chauvet. Ce qui m'intéressait de la grotte Chauvet, c'est ces dessins qui ont 35 000 ans. C'est extraordinaire. La qualité des dessins de ces hommes, c'est inouï. Mais ces hommes de la grotte Chauvet, on ne l'a pas dit dans le texte, mais au départ, c'était l'intention première. Ils ne savaient pas d'où ils venaient. Ils ne savaient pas d'où ils amenaient. Ils ne savaient pas où ils allaient. Alors que nous, on sait très bien d'où on vient. Et on sait très bien où on va. C'est écrit, quoi. Donc voilà, il y a une énorme différence. Et ce mec qui vivait dans la grotte de Chauvet, qui n'est pas du tout armé pour se battre, qui ont des gros animaux, ces lions, ces énormes lynx, grâce à leur entraide, à leur intelligence, ils ont colonisé la Terre. aujourd'hui, il n'y a plus que la Terre, il n'y a plus que nous sur la Terre. Mmh. Et on est en train de supprimer tout ce qui n'est pas humain sur la Terre. C'est inouï. Quand on calcule, alors je vais redire encore des chiffres, mais quand tu parles de la biomasse des vertébrés sur la Terre, alors les chiffres changent un petit peu. Dans le film, on a mis le chiffre bas, je n'ai pas voulu aller trop accélérer, mais dans la biodiversité, la biomasse, le poids de tous les vertébrés sur la Terre, c'est entre 96 et 98% l'homme et ses animaux domestiques. Tous les animaux sauvages du monde n'en présentent que 2% de la biomasse du monde. C'est dingue. C'est fou, de penser à ça. Comme l'homme, avec son intelligence, quoi, sa capacité à se reproduire, à s'entraider, on a une force incroyable. Et devant ce qui arrive en ce moment, comment on ne peut pas se servir de ça pour faire un monde meilleur?
Mais on peut y arriver, non? Enfin, je sais pas, moi j'ai tendance à être un peu positif, mais c'est vrai que... Toi, t'as regardé soit évoluer sur...
Moi, j'ai pas le même âge. Ouais. J'ai 74 ans. Depuis que j'ai 20 ans, je m'intéresse à l'écologie, ça me passionne. Au début, où l'écologie n'intéressait personne. Mmh. Moi, je me souviens d'avoir voté Dumont quand j'avais une vingtaine d'années. C'était la première homme politique qui s'est présenté. C'est Lalonde qui avait été le chercher. Lalonde qui avait des grands cheveux, une deux chevaux avec des fleurs dessus, qui s'enchaînait aux grilles des centrales nucléaires, qui avait été le chercher. C'était un scientifique, un économiste. Et je me souviens que dans mon village, il y avait 500 personnes. J'avais voté pour lui, il y avait une voix. Et dans le journal, il y avait une voix, tu savais que c'était la tienne. Voilà, donc... quand je vois ce qui arrive aujourd'hui, quoi. Moi, je me souviens quand je suis parti au Kenya. Et on commence le film aussi avec ça. Parce que j'ai vécu au Kenya une histoire incroyable, quoi. Et c'est quelque chose que j'aime bien dire, c'est que faut jamais passer à côté de sa chance. Il y a des moments dans la vie, on te propose des trucs, t'as des idées, ben faut y aller tout de suite, quoi. Si tu prends des risques. Et j'étais pendant 10 ans, j'ai vécu, je m'occupais d'une réserve. Et après, j'étais guide pour touristes au Kenya, j'emmenais les touristes, faire des photos. Je connaissais un peu les animaux, donc voilà, j'adorais faire ça. Mais j'étais toujours un touriste, quoi. J'emmenais les bagages, je m'occupais de ce que les hôtels étaient bien réservés. Et un jour, je vois un gars qui est un Français qui a essayé de monter une compagnie de montgolfières au Kenya, dans la réserve du Masai Mara. Masai Mara, c'est le rêve absolu pour un naturaliste. C'est l'endroit où tu as tous les lions, les éléphants, la traversée des gnouks. Un endroit très concentré d'animaux sauvages et qui cherchait un pilote de montgolfière. Ou du moins, j'ai été le voir. Je lui ai dit, t'aurais pas envie d'avoir un Français comme pilote de montgolfière? Et moi, j'étais déjà pilote avion. Il m'a dit, écoute, si t'as envie, prends le boulot. Tous les pilotes qui arrivent ici, ils restent 2-3 mois, ils s'emmerdent. En Afrique, ça les embête. Nous, je rêve de quelqu'un qui s'installe. Et donc, j'ai pris cette chance. J'ai passé ma licence de montgolfière. Et je me suis installé au Kenya, j'ai construit ma maison en bois. Ça, c'est un truc formidable de construire sa maison à soi. C'est-à-dire pas tout seul, hein. Mais tu construis ta maison avec le bois qui arrive, les planches, et puis tu construis. Bon, en Afrique, c'est plus facile, il fait moins froid, il n'y a pas de problème de l'électricité, tu es un peu bricolé, la plomberie aussi, mais comme on fait ça au milieu de la réserve, sur pilotis. Et j'avais une maison où passaient devant ma maison passaient les éléphants, les girafes, les buffles. Ça paraît con comme ça, mais quand tu es fou d'animaux, passionné, parce que je m'intéressais aux animaux passionnément, et je rêvais je voulais devenir scientifique. Je pensais que c'était la seule façon de vivre mieux de ça, quoi, de ce monde animalier. Et ce qui est formidable en France, c'est que tu peux passer une thèse, un doctorat, même si tu as zéro diplôme. Il suffit de trouver un directeur de thèse qui l'accepte. Alors, tu pourras pas enseigner à l'université, mais tu auras le titre.
Je savais que c'était
et donc, là, Pierre Pfeffer, qui était quelqu'un que je connaissais, avait accepté. Et je suis parti au Kenya. Et mon idole, c'était Jane Goodall, qui avait. Mm-hmm. Je m'occupais de chimpanzés. J'avais vu son livre sur les chimpanzés. Je rêvais de faire comme elle, de vivre cette proximité, tu vois, intime avec les lions. On leur donne pas des numéros, on leur donne des noms, parce que Jane Goodall était la première, ainsi que Diane Fossey, à travailler en donnant des noms aux animaux et pas de numéros, en travaillant vraiment sur le terrain. Et comme j'avais élevé beaucoup de lions dans ma vie précédente, j'avais élevé des bébés lions. On pourra en parler si tu veux. Ouais. Et donc, j'étais passionné par les lions. Je rêvais de faire une étude comparative entre George Scheller, qui avait fait une étude dans le Serengeti, et moi dans le Masai Mara. Donc, on est parti avec ma femme Anne, que j'ai rencontrée à ce moment-là, et qui a eu ce côté formidable des femmes amoureuses, et que je trouve génial. Elle a dit, OK, on part ensemble. Elle est partie avec ses deux petits garçons, qui sont mes fils maintenant. Ils sont encore leur père, mais pour moi, ils sont comme mes fils. Et on est parti là-bas au Kenya. Elle a ce côté fantastique de me suivre et de m'aider. Et tous les deux, on a travaillé tous les jours en suivant une famille de lions, de 17 lions, tous les jours en prenant des notes, ce qu'ils mangeaient, les décès des bébés, parce que 50% des lionceaux mouraient dans l'année. Quoi, expliquer pourquoi ça se passait. Oui, c'est à cause des hyènes, à cause des lionnes qui sont blessées, qui ne peuvent pas nourrir. Faut lire le livre sur les lions qu'on a fait. Voilà. Donc la vie était dure, mais ce qui m'a fasciné et que j'ai adoré, et ça c'est très important, c'est j'essaie de refaire ça aujourd'hui, là où j'habite dans la forêt de Rambouillet, cette harmonie incroyable de l'homme au milieu des animaux sauvages qui n'ont pas peur de toi. Mais quel pied de partir le matin avec ta bagnole, de traverser des troupeaux d'éléphants, de voir des antilopes qui ne partent pas en courant dès qu'elles te voient, comme ici dans la forêt de Rambouillet. Cette harmonie entre l'homme et la nature, et les animaux sauvages, j'ai adoré ça. Et j'ai vécu 3 ans là-dedans, et en fin de compte, ma famille était avec les familles d'animaux. On connaissait les familles de hyènes, on connaissait les familles de guépards, on connaissait la femelle rhinocéros qui était là. Donc, toi, cette espèce de mélange de familles, j'ai adoré faire ça pendant 3 ans. Et c'est là où j'ai vraiment appris la photographie. Parce que les lions, comme faisait cette thèse, ma femme écrivait bien. Alors elle a fait un doctorat de lettres par la suite. Moi, j'avais 14 écoles, j'étais très mauvais en orthographe, j'ai 0 diplôme, j'ai du mal à écrire. Même encore aujourd'hui, quand je vais faire une préface, je demande à quelqu'un de l'écrire avec moi, je recopie. Bon, j'ai des idées, mais j'ai du mal à formuler. Pas assez courageux peut-être devant l'effort de l'écriture. Et donc je voulais le faire en photo, et le bon directeur de thèse, Pierre Pfeffer, m'a dit « Ok, on le fait en photo, c'est génial ». Et donc j'étais un peu photographe, mais je ne connaissais pas, je voulais pas être photographe. Et en fin de compte, c'est les lions qui m'ont appris la photographie, ils m'ont appris l'évidence de la beauté, tu vois, ils m'ont appris la patience, ils m'ont appris l'émerveillement. Et dans ma vie de photographe aujourd'hui, cette beauté évidente est plus importante que moi, que toute la beauté fabriquée par l'homme, quoi. Voilà, on en parlera tout à l'heure si tu veux, mais aujourd'hui, et quand j'ai travaillé pendant 3 ans sur les lions, et on est rentré en France, que les enfants devaient aller à l'école. Voilà. Et donc, ça a vraiment été le début. Et ce moment où j'étais ce gosse naïf, utopiste, et ce que je vois, ce qui se passe aujourd'hui, tous les animaux que j'ai élevés, que j'ai approchés au Kenya, même les girafes, les hippopotames, sont aujourd'hui dans la liste rouge des animaux en voie de disparition. C'est invraisemblable, parce que la démographie fait qu'il y a moins de place autour des réserves pour les animaux sauvages, parce qu'il y a le braconnage, parce que, bien sûr, toutes ces grandes plaines qui n'étaient pas en réserve où les animaux pouvaient aller, aujourd'hui sont cultivées. Voilà, et j'étais étonné de voir que dans le Maasai Mara, où j'habitais, tout autour de la réserve, il y a des moissonneuses batteuses. C'est inimaginable d'entendre le bruit des moissonneuses batteuses, voilà, dans ce paradis incroyable, quoi. L'herbe des antilopes était envolée par l'avoine et le blé, quoi.
Ah, attends, j'ai plusieurs questions, j'en ai plein en fait. Mais vas-y. Je vais commencer par la première.
Parle beaucoup, je suis désolé.
Non, mais j'adore, moi, c'est
quand
super.
Je suis parti là-dedans, j'ai du mal à
m'arrêter. Ah, non, mais c'est super. Et je voulais te demander, puisque tu y as fait référence, mais du coup, je te pose la question tout de suite. Pour toi, c'est quoi le beau? Justement.
Je crois que le beau, c'est l'émotion. C'est pas forcément quelque chose de visuel. Ça peut être une belle action, ça peut être quelqu'un qui dit je t'aime, ça peut être ton petit-fils qui se serre dans tes bras et avec tendresse. C'est ça la beauté. C'est pas moi j'ai passé ma vie à courir après la beauté du monde. J'étais dans les plus beaux endroits du monde et j'aperçois que c'est ce que je dis d'ailleurs dans Legacy, que d'avoir fait Human, ce film qui me un film très important, tous ces visages. La beauté essentielle elle est là, quoi. Elle est chez les gens, la beauté. Elle n'est pas forcément cette beauté bien sûr, un glacier, qui arrive devant un glacier, une montagne, qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'une montagne, quoi. Et c'est assez intéressant parce que quand tu vas dans un musée, par exemple, moi je suis désolé de te dire que je suis beaucoup plus touché par un glacier que par la Joconde, mais beaucoup plus, quoi. Je veux dire que c'est un peu dévoyé la beauté, quoi. Peut-être que la beauté chez les critiques d'art est quelque chose de compliqué, tu vois. On voit bien l'art contemporain, tu comprends souvent. Mais je dis pas qu'il y a que de la merde, loin de là, il y a des choses que j'adore, mais. Quelque part, qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un chêne dans un champ? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Dis-moi, un grand chêne dans un champ, tu peux regarder ça, ça change tous les jours, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça? Et quand j'étais à parler de beauté, quand j'étais pendant le confinement, j'étais me promener tous les jours dans la forêt, à côté, qui est à 20 mètres d'ici, là, d'où on parle. Et tous les jours, j'étais me promener dans la forêt. Cette année, c'est la première fois, je voyais vraiment le printemps arriver. Parce que le confinement, il était arrivé, il faisait beau, c'est très chaud. Les arbres, il n'y avait pas une feuille. Et on a vu les feuilles. On a vu les feuilles arriver. Et quand on a arrêté le confinement, il faisait des verts partout. Et j'ai pris conscience, assez étonnamment, c'est con, hein, à 74 ans, que la beauté évidente, elle était chez moi. Quoi. Autour de chez moi, elle était là. Et je ne l'avais peut-être pas compris. Je la voyais, mais sans la voir exprimée. Et il y a une harmonie incroyable dans la forêt. Il n'y a rien, tout pousse n'importe comment. Il n'y a pas la main de l'homme. Il n'y a rien. C'est sauvage, la forêt, en fin de compte. Il n'y a peut-être pas assez d'animaux. mais en tout cas, Et quand je suis arrivé à Paris, je trouvais tout laid. Mais vraiment laid. Les rues avec les néons, les bagnoles de toutes les couleurs, les gens habillés n'importe comment. Le goudron, les feux rouges, je trouvais tout moche. Mais ça m'a vraiment sauté à la gueule. Comme quoi, on vit dans la laideur, en fin de compte, quand on est dans une ville. Alors, bien sûr, il y a les gens, il y a les côtés restaurants sympas, mais esthétiquement, c'est pas là, quoi. Alors, bien sûr, on va te dire, ouais, il y a... moi, qui ai beaucoup survolé Paris, bien sûr, que tu vois au bord de la Seine, c'est magnifique, mais la beauté d'un côté de chez moi, à Boulogne, des rues commerçantes, c'est très laid, tout ça. Tu rentres dans un magasin, c'est laid, quoi, je trouve. Tu vois, la beauté, elle est pas là, quoi. C'est très personnel, ça, ce que je dis est un peu radical, mais je le pense sincèrement, profondément. Non, mais
moi, j'ai eu ce retour où je marchais dans Paris et je me sentais agressé par les boutiques. Je trouvais qu'il y avait trop d'offres, en fait. C'était très étrange comme sentiment, parce que je ne l'avais jamais eu avant. Et je ne sais pas si c'est lié au confinement ou je ne sais pas quoi.
Mais c'est vrai que quand tu te promènes dans rue de Sèvres, par exemple, dans tous ces magasins de vêtements, côte à côte, bon, je n'achète pas beaucoup de vêtements, je dois reconnaître, je ne suis pas... Je suis peut-être pas... Mais tu dis, mais... Oui, c'est vrai qu'on est un peu... Mais en même temps, c'est le système, hein. Le système dont on vit tous, toi comme moi.
Hein. Bien sûr.
Voilà, donc voilà.
Et tu parlais tout à l'heure de la disparition des animaux sauvages. Est-ce que tu crois que les gens en Europe, on va dire en France, réalisent que c'est à travers notre consommation à nous qu'en fait, il y a une disparition des animaux sauvages
d'abord,
dans des pays éloignés?
Alors, parlons de chez nous d'abord.
Vas-y.
On va parler des autres.
Okay. Bien sûr.
Tu vois, ici, je vis dans la forêt de Rambouillet. Là, je viens d'acquérir... un endroit où on fait du rewild, on essaie de redevenir sauvage, un endroit où on a créé une association, l'endroit où j'avais toujours vu des cerfs et des biches toute ma jeunesse. Aujourd'hui, il n'y a plus d'animaux. Je rêve de retrouver les cerfs et les biches autour de chez moi. On a même un projet de remettre des cerfs et des biches dans le bois de Boulogne. Figure-toi avec, a priori, la maire de Paris est OK. Maintenant, il faut convaincre tout le monde, ça va être compliqué. Je pourrais créer près de ma fondation un espèce d'endroit où, pour les enfermer un petit peu sur 2-3 hectares et après les relâcher. Mais j'adorais voir des cerfs et des biches remonter l'avenue Foch. Je trouve que c'est un truc utopiste. Mais pourquoi? Parce qu'on a toujours parlé pendant le confinement des animaux qui revenaient. Voilà, donc. Et aujourd'hui, l'animal sauvage te dérange. Les sangliers, bien sûr, défont toutes les cultures. Les cerfs et les biches, par exemple, pourquoi est-ce qu'on n'en veut pas dans la forêt? Parce que les gens qui plantent des arbres, ça les emmerde parce que les cerfs et les biches mangent les pousses. Donc moins il y en a, plus on est content. Les paysans, bien sûr, quand tu plantes du maïs long de la forêt, pas demander pourquoi les sangliers y vont. Les assureurs, l'assureur des bagnoles, parce qu'il y a beaucoup d'accidents, donc on ne veut pas attirer des biches. Donc tu vois, l'animal sauvage nous dérange. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'apercevoir une serre et une biche devant ta fenêtre? Mais c'est un miracle de voir un chevreuil devant chez toi. Et ça, cette beauté évidente et ce plaisir, parce que c'est un vrai plaisir, ça. Et je pense que le plaisir de voir des serres et des biches est bien plus important que l'inconvénient de quelques arbres bouffés avec un grillage autour. Et en fin de compte, ils ont pas de défenseurs, ces animaux sauvages. Il y a les chasseurs aussi, bien sûr, qui veulent les chasser. Ici, dans la forêt de Rambouillet, à côté de chez moi, on tire environ, je sais pas, 350 animaux, grands animaux par an. C'est beaucoup trop. Alors, bien sûr, les eaux forêts te disent, oui, il faut tant d'animaux à l'hectare. Il y a beaucoup de chiffres qui arrangent tout le monde. Je pense qu'on pourrait avoir beaucoup, beaucoup plus d'animaux sauvages. Alors, on parle de disparition de l'animal sauvage, mais chez nous, déjà, on n'est pas capable d'avoir des loups, on n'est pas capable d'avoir des ours. Notre façon de vivre nous empêche d'avoir tout ça. Et notre façon de vivre, à nous, elle est en train de s'exporter au Kenya, partout. Et donc, l'animal sauvage, mais quand tu habites au Kenya, que tu as un troupeau d'éléphants qui passe dans ton jardin, tu as bien compris que ça t'emmerde. Donc, les braconnes, donc, tu empoisonnes les lions, comme les guerriers Maasai aujourd'hui qui attaquent les vaches. En fin de compte, d'ailleurs, c'est une des raisons de la pandémie, hein, c'est que l'homme se rapproche de plus en plus, ils sont beaucoup plus concentrés dans l'endroit sauvage. Il y a encore des zones gigantesques, de forêts gigantesques, mais qui sont énormément exploitées par les forestiers, de plus en plus. Le WWF estime qu'on a perdu, c'est incroyable ce chiffre, 70% du vivant en 40 ans. Je le répète, 70% du vivant en 40 ans. C'est inimaginable. Par contre, mon espèce, la mienne, on est passé de quelques 2 milliards quand je suis né, aujourd'hui près de 8. Donc quelque part, la population du monde depuis que je suis né est pratiquement multipliée par 4. Et la consommation de viande par 8, la consommation de viande de poisson par 8. Donc tous ces chiffres-là donnent le tournis. Tu vois, on est là, on grandit. Et cette envie de croissance que nous, on a dans ce paradis dans lequel on vit, tout le monde le veut. Mmh. Donc voilà, l'animal sauvage, un arbre mort va beaucoup plus de valeur qu'un arbre vivant. Eh oui, tout simplement.
Et ouais, mais est-ce que tu penses que c'est inhérent à la race humaine? Ou est-ce qu'on s'est perdu en chemin pendant 150 ans, 200 ans?
Je ne suis pas dans ces considérations-là. Moi, je pense que c'est... on a toujours envie d'accumuler, d'avoir plus. Tout le monde a envie de vivre mieux, d'avoir un meilleur avenir pour ses enfants. Tout le monde a envie de gagner plus d'argent, en fin de compte. Et gagner plus d'argent, ben, c'est de la croissance. Et la croissance, elle n'est pas bonne pour l'environnement, on le sait bien. Je crois que le type qui élève ses cochons... en Bretagne, et qui est en train de polluer complètement avec les algues vertes, fait pas un métier marrant, il vit dans la merde, il gagne pas bien sa vie, et en même temps, il a envie de le faire, c'est son métier, il avait qu'un hectare, il a construit ça, il est endetté, il est embarqué dans un système où tout le monde est d'accord, puisque le cochon, tout le monde mange du cochon, quoi, tu vois, on exportait du cochon dans le monde entier, voilà, il y a un système, et c'est difficile de dire, ben voilà, on va arrêter l'élevage industriel, parce que on va arrêter d'importer du soja. Pourquoi les élevages sont en Bretagne? Parce que d'abord, les territoires étaient petits, puis aussi parce que le soja, il arrive du Brésil, c'est pas loin, quoi, voilà. Donc, il y a c'est ce système-là, on est embarqué dans un système, on a du mal d'en sortir, et puis c'est difficile de revenir en arrière, j'ai l'impression... les bêtises que disait Macron sur les Amish, c'est pas ça du tout, c'est revenir vivre mieux avec moins et peut-être plus de solidarité et plus de... En fin de compte, je pense que le mec qui élève des cochons devrait être fier d'en manger. Il devrait être fier de le vendre et que ce soit un cochon qui soit bien fait, un animal qui a été élevé dans la... Bon, c'est un peu utopiste et nunuche que je te dis. Mais moi, je pense qu'un animal qu'on mange, on doit le respecter et voilà, et puisqu'il a été élevé pour être tué, pourquoi pas, mais que ça soit bien fait. Et qu'il ait une vie heureuse, entre parenthèses, et non pas 0,85 mètres carrés par cochon, ce qui est la norme européenne. Voilà. Et les cochons, on mange des jeunes animaux, on mange des adolescents, en fin de compte, parce que dès qu'ils sont d'un bout de 3-4 mois, ils partent à l'abattoir.
Voilà. Ça, c'est dit. Non, mais c'est la réalité.
Bon, c'est bon,
en fait,
le truc,
c'est que je crois
et
que...
Et puis, alors, quand tu bois du lait, on en a parlé tout à l'heure, ouais. Personne ne sait que quand tu bois du lait, les vaches laitières, par exemple, elles doivent avoir... Le lait, en plus, il y a un prix mondial qui a... à 0,30 euros, qui n'est pas du tout assez pour vivre. On devrait au moins l'acheter 0,40, que tous les éleveurs laitiers, les petits laits, c'est le gros suicide des paysans, c'est beaucoup de gens qui font du lait. Il faut savoir qu'on élève une vache, on enlève son veau à quelques jours. Le veau, c'est un veau mâle, il va partir à l'abattoir ou à l'écarissage, ça n'a aucune valeur. Je crois que ça vaut entre 10 et 20 euros. On va élever les femelles dans des petites cages à part pour qu'elles deviennent des vaches, mais jamais elles vont vivre avec leur mère. C'est-à-dire que la vache va être... on va produire du lait maximum, parce qu'on lève son veau, parce qu'on boit le lait du veau. Et au bout de quelques années, 3 ou 4 ans, les pies vont s'abîmer. Et donc, elle va partir à l'abattoir pour faire du McDo. Les 3/4 de la viande qu'on consomme, c'est de la vache laitière. Voilà. Et en même temps, la vache Holstein, par exemple, qui est la vache laitière par excellence, n'existait pas dans les années 80. C'est une 50, pardon. C'est une vache qui arrive du Canada, qui a été fabriquée pour faire du lait, quoi. Voilà. Donc, toutes des petites vaches, traditionnelles françaises, la bretonne, la ardennaise, la limousine. Aujourd'hui, où sont des vaches à viande, mais font plus de lait parce qu'elles ne sont pas assez rentables. En fin de compte, l'agriculture est devenue sur un prix mondial, ce qui est ridicule. Quoi. Il faut acheter le lait, le vrai prix, le prix que ça revient aux paysans. Et d'ailleurs, il faut absolument acheter le lait, le beurre à l'association. C'est qui le patron? Voilà, qui est l'association de consommateurs qui paye le vrai prix aux paysans. Ça, c'est important.
Et j'y prends. Et c'est marrant parce qu'effectivement, je fais très attention d'acheter cette marque moi aussi. Donc, c'est vrai que ça va dans le bon sens. Je pense que ce que tu dis, c'est. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est désagréable à entendre. Parce qu'en fait, ça remet en cause nos modes de vie, forcément. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, d'un coup, tu dis, ben oui, mais en fait, du coup, c'est un peu ma faute, mais moi, j'ai pas envie de l'entendre parce que j'ai pas envie d'être culpabilisé, en fait. Il y a un peu de ça derrière.
Mais si tu veux, c'est assez curieux parce que, en fin de compte, moi, je suis devenu végétarien il y a 4-5 ans. Je suis un petit végétarien. Je suis pas végétarien à 100%. Je fais quelquefois des écarts. Mais je mange plus de viande pratiquement, vraiment. C'est, à midi, on a mangé de la viande. Ouais, j'ai à pas midi, envie, on a mangé de la viande. Plus 3 mois, toi. Bon, c'est vrai que c'est un copain
merci
qui
fait déjeuner,
des saucisses. Qui était une saucisse. Le mec, il fait ses céréales avec ses chevaux et c'est un copain. Mais je me donne une bonne excuse pour manger un morceau de saucisse. Encore. Mais j'étais pas végétarien avant. Je savais pourtant que je devais le faire, tu vois. Et il m'a fallu quand même presque 10 ans pour le devenir. Voilà. Alors moi qui suis écolo, qu'il sait qu'il me faut 10 ans, les autres, c'est encore plus compliqué, donc j'accepte. Bon, l'avion, voilà, moi j'ai pris l'avion toute ma vie, et là, j'étais à New York présenter le film Woman, tu sais, quand tu fais un film comme ça à niveau international, tu vas le présenter à tous les festivals dans le monde entier, et tu vas 2 jours à New York, 2 jours à Montréal, 2 jours à Rio, c'est complètement con, aujourd'hui on peut le faire par vidéoconférence, d'ailleurs la Covid a changé beaucoup de choses là-dessus, mais et en lisant, en allant à New York, j'ai le bouquin La Petite Greta, elle expliquait pourquoi elle prenait plus l'avion. Je me dis merde, c'est une fille de 16 ans qui me dit ce que je dois faire. Et j'ai dit à ma co-réalisatrice Anastasia à côté de moi, bah, tu vois, c'est la dernière fois que je prends l'avion. Elle me dit quoi? Bah, je dis oui. Greta me le demande et elle a raison complètement. Comme quoi, il faut que ça te... Il y a une espèce de pointe de conscience qui t'arrive et d'un seul coup, tu dis ouais. Et c'est pas un truc qui arrive directement, quoi. C'est un long chemin, en tout cas chez moi. C'était un long chemin.
Voilà. Mais je crois que, en fait, comme tu le disais tout à l'heure pour l'écologie, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'à force des films catastrophes, les gens attendent le grand soir où à un moment donné il va se passer un truc. Et en fait, on se rend compte que c'est évidemment, il y a ça se fait sur le long terme.
Mais bien sûr.
Et de la même manière, c'est ce que tu dis pour les humains. Je pense qu'en France en particulier, enfin en Europe de manière générale, il y a une vraie conscience écologique aujourd'hui. Je crois que les gens, ils ont bien compris. Maintenant, la transformation, c'est à quoi tu fais référence. Et moi, je trouve ça plutôt aussi quelque part positif de se dire, vous êtes sur le chemin, c'est pas grave si vous n'y êtes pas à 100%. Moi, on a mangé de la viande à midi, donc ça m'arrive aussi de manger de la viande de temps en temps. C'est quand même extrêmement rare, mais ça arrive. Je me souviens même pas la dernière fois que j'ai mangé de la viande rouge. Tu vois, je sais plus. Je pense que c'était... Il y a peut-être un mois ou deux. Et donc j'en mange rarement, mais j'en mange. Voilà, ça peut arriver. De la même manière, ça peut m'arriver de prendre l'avion, etc., etc. Mais j'essaie de réduire, et je pense que comme toi, au fur et à mesure.
Mais je pense
qu'en fait, c'est un processus en fait.
Oui, mais ce processus est beaucoup trop long par rapport à ce qui arrive. La semaine dernière, t'as quand même le secrétaire général des Nations Unies. Et c'est pas le patron de Greenpeace, hein, le secrétaire général des Nations Unies, qui dit que nous allions vers une catastrophe climatique imminente. C'est impressionnant quand le type, quand tu l'entends parler, d'ailleurs, il le parle avec gravité. Tout ce qu'on dit maintenant, il faut faire beaucoup, beaucoup plus. Et surtout, n'oublions pas que nous sommes le modèle du monde. Mmh. Le monde dans lequel on vit est le modèle du monde entier. N'oublions pas que 70% des gaz à effet de serre, 70%, est émis par 10% de la population mondiale. 10% émettent 70% des gaz à effet de serre.
Ça, c'est nous. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure...
C'est dingue, tu vois, ouais. Les chiffres, ils te parlent. Moi, je suis un peu... Les chiffres, c'est très important dans le film. Et quand tu vas au Bangladesh, qui est un des pays les plus pauvres du monde, 160 millions d'habitants, ce pays est déjà en train de souffrir de changement climatique, puisque c'est un énorme delta, donc c'est près du niveau de la mer, donc tu as les cyclones qui rentrent d'un côté, tu vois, avec l'eau de mer qui rentre partout, qui leur empêche de faire du riz. Maintenant, ils sont en train de se transformer, faire des crevettes, parce que l'eau devient salée dans le delta. Puis il y a l'Himalaya et tous les glaciers qui fondent à grande vitesse et qui amènent des énormes crues de l'autre côté. Eh bien, ce pays, chaque personne au Bangladesh doit émettre, tu vois, 0,3, 0,4 kilos de carbone par an, alors qu'un Américain en émet 20 kilos et les Français 12. Donc, tu vois l'injustice de ces gens qui sont en survie aujourd'hui. Très souvent, un agriculteur de subsistance, des gens qui ne vendent rien, qui vivent avec ce qu'ils travaillent et qui ont donc peur d'être malades. Et puis s'ils ne peuvent pas travailler, ben, ils crèvent de faim, quoi. Ben, ces gens-là souffrent du changement climatique dû par nous. Et ils ont une résilience absolument incroyable. Et ils ne savent pas de ce que c'est que le changement climatique. Quand j'y étais, on a parlé avec eux. Ils savent que c'est en train de changer, mais ils ne savent pas pourquoi ils le savent pas.
Et en fait, tu vois, c'est marrant parce que ces personnes qui consomment 12 tonnes de CO2, de carbone en moyenne en France, ce sont les mêmes qui vont se plaindre après des migrations climatiques. Et des migrants en disant, mais non, mais ils n'ont qu'à rester chez eux. Alors que c'est nous qui leur avons rendu la vie impossible dans leur pays, en fait. C'est intéressant.
C'est plus ou moins vrai parce qu'aujourd'hui, si tu habites Brazzaville ou tu habites Addis Abeba, et que tu es un adolescent, et que d'abord tu as Internet, parce que tout le monde a Internet aujourd'hui, donc on sait très bien ce qui se passe chez nous. C'est-à-dire qu'on sait quel est le salaire moyen, on a tous des copains qui ont émigré, donc ils s'appellent tous les jours, par WhatsApp ou par Viber. Donc vraiment, il y a plus cette méconnaissance de ce qui se passe. Et quand tu vis dans un pays où il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de service de santé, il n'y a pas d'éducation, tu rêves que d'un truc, c'est de vivre chez nous. On arrive tous les jours dans une espèce de rêve, et c'est un rêve. C'est, aujourd'hui, c'est d'abord un rêve économique, parce que tu crèves de faim. Et souvent, quand tu pars, ta famille te donne de l'argent pour que tu puisses après renvoyer de l'argent à ta famille et être prêt à risquer ta vie. On est quand même, on parle de milliers de personnes qui se noient tous les ans en traversant la Méditerranée. Et je pense que la grande crise migratoire, elle n'a pas encore commencé. On ne pourra pas l'arrêter. Et d'ailleurs, c'est l'histoire du monde, cette ronde infernale où on va toujours avec sa famille chercher le bonheur ailleurs s'il n'est pas chez toi. C'est le rôle. Le monde entier a été fait avec les migrations, on le sait bien. Voilà. Mais il ne faut pas en avoir peur, je pense. Il faut essayer de résoudre le problème et pas le. C'est pas en fermant les frontières qu'on va le problème, c'est en accueillant les gens et en partageant comment est-ce qu'on peut arriver à vivre autrement. Moi, je suis extrêmement. Plus je vieillis. Moi, je suis en colère et plus j'essaie d'aller vers la bienveillance. C'est étonnant. Je me dis, oui, ben d'accord, il faut accepter. Et il faut essayer de se battre. C'est pas pour ça que je vais baisser les bras, loin de là. Le film que Legacy le montre bien. Mais j'ai bien compris que l'homme politique, il est bloqué. L'homme politique, c'est quoi? C'est le reflet de ce que nous sommes, en fin de compte. Dès qu'il est. Quand il regarde Sarkozy avec sa taxe carbone, si personne n'en veut, ben elle n'existe pas, la taxe carbone. Voilà, c'est. Je pense que. Quand il y a la marche pour le climat et qu'on est 50 000 à Paris, on est tous super contents. Et quand arrive la Coupe du Monde, on est 2 millions dans la rue. Mais quand on sera 2 millions à manifester contre un dérèglement climatique, mais les hommes politiques seront avec nous. Parce que l'homme politique, il nous ressemble. C'est le reflet de ce qu'on a envie. Et les lobbies, alors les fameuses lobbies du pétrole, j'entends souvent parler, et Total, et ci, et ça, mais... C'est le lobby, il répond à un besoin de croissance. On a tous besoin. Voilà, le gars de Total, il est là pour fournir de l'essence en France. Il faut qu'il le fasse bien, qu'il aille le chercher dans les bons endroits, qu'il n'aille pas le chercher en Arctique, qu'il n'aille pas le chercher dans les forêts du Congo. Ça, on peut critiquer. On ne peut pas lui reprocher de vendre de l'essence en France, parce que c'est le sang de notre économie. Par contre, je pense que... Et moi, je travaille là-dessus avec la Fondation, que sur toutes les pompes à essence, il y a un petit papier, comme sur les paquets de cigarettes, qui te disent « Attention !» Les énergies fossiles, le pétrole, ça participe au dérèglement climatique. Et faites gaffe, utilisez-le de façon parcimonieuse. Voilà, je sais pas. En tout cas, il faudrait trouver quelque chose. Je sais pas, comprendre l'essence, qu'on ait ce message devant les yeux. Je sais pas pour ça que ça empêche les gens de fumer, mais au moins, ça sera dit.
Non,
et je pense que les gens comme Total ou les autres doivent assumer que ce qu'ils vendent n'est pas bon pour l'environnement.
Ça, et de la même manière, je pense que sur... peut-être qu'on devrait aussi le mettre sur des paquets de viande, tu vois, au supermarché ou...
Plus compliqué, là, parce que t'attaques directement des paysans, alors que le pétrole, c'est des gens très loin qu'on connaît pas, des dictateurs arabes, c'est un peu différent. Mais c'est vrai qu'on devrait mettre en avant... Mais si tu manges pas bio, t'es de Monsanto, en gros, je vais te le faire bref, voilà.
Mmh. Ouais, c'est vrai.
Tout simplement. Et manger bio aujourd'hui, c'est un combat. Et j'en veux un peu, alors toi, là où les hommes politiques, on ne sent pas assez courageux, c'est pour les cantines, tu vois, les maisons de retraite, on devrait pouvoir aider financièrement. Et d'ailleurs, l'argent qu'on va donner pour le Covid, là, ça dépasse de loin ce qu'on aurait pu donner pour l'environnement. Si on avait donné le dixième pour l'environnement avant, ça aurait été extraordinaire. Mais en fin de compte, cette vision de la vie sur Terre en danger, c'est pas une vision que les politiques ont, parce que les politiques, ils sont là pour parler de pouvoir d'achat et d'emploi, préserver les emplois, de croissance. Et c'est Hulot qui dit assez bien, d'ailleurs, il regarde avec des lunettes pour voir près, et alors que d'avoir des lunettes pour voir loin, parce que l'écologie, c'est... Et si tu mets les deux lunettes l'une sur l'autre, tu vois trouble. Et c'est une belle image. Et c'est compliqué pour un homme politique de voir loin et voir près à la fois. Voilà. Et ça doit être accepté. Et je pense qu'aujourd'hui, le travail qu'on fait nous tous, toi comme moi, en parlant de ces choses-là, c'est justement d'amener cette conscience afin d'aider les politiques à prendre des décisions difficiles, courageuses, qui doivent être acceptées partout. Si on n'accepte pas, un jour, on sera peut-être rationné pour l'essence. Je pense qu'on le sera un jour, forcément.
Forcément.
On sera, et sur les pesticides et sur les circuits courts. Circuits courts, par exemple, ça me fait toujours rigoler, on parle de circuits courts. Je parlais il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un d'important à la ville de Paris, mais circuits courts, c'est la ville de Paris. Comment tu peux nourrir 10 millions de personnes avec des circuits courts? Alors, ça veut dire un circuit court à 2000 km, quoi. Ça veut dire, mais 200 km, tu nourris pas Paris. C'est pas possible. Tous les champs de Beauce ne sont pas faits pour du maraîchage, pour la consommation. On fait du blé qu'on va vendre à l'étranger, parce que le blé cette année s'est vendu très bien. Et on va acheter du maraîchage avec des emplois moins chers, donc du maraîchage à l'étranger. La France est le pays agricole quand même un des pays agricoles qui est un des pays où le territoire agricole est un des plus importants, je crois que c'est 52 à 53%. La Chine, c'est 6%. Hein. 6% du territoire chinois est agricole. C'est inimaginable. La France, c'est 52%. Et pourtant, on achète 50% de notre nourriture à l'étranger. Voilà, donc tu as peut-être une chose à revoir complètement et qui me dépasse un peu, mais c'est quelque chose qui doit être accepté par tous. Si ce n'est pas accepté, ça ne marche pas, voilà.
Mais non, mais c'est un peu c'est le rôle du film que tu sors, ouais. C'est le rôle aussi de cet épisode, d'aider les personnes à accepter ce qui est devant nous, en fait, quelque part, non ? Enfin, je veux dire, c'est évident, enfin, c'est
un peu comme... Il n'y a pas de vaccin contre le dérèglement climatique. Il n'y a pas de vaccin. Aujourd'hui, on parle de vaccin toute la journée. Quand est-ce qu'il va arriver ? Mais il n'y a pas de vaccin contre le changement climatique. Et ça, on n'a pas compris. Le vaccin, c'est toi. C'est toi. Qu'est-ce que tu vas faire ? Et ce n'est pas forcément que ça marche. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a comme un devoir, comme une mission, de continuer à se battre, tous ensemble. Et je le dis avec émotion. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous ce devoir de le faire. Même si on sait que peut-être que... Voilà, mais on doit essayer. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? Tu vas pas... Tu sais, c'est les Africains qui disent « ça sert à rien de pleurer tout seul dans le noir, il faut allumer une lumière. » Et ben, je pense qu'on peut tous allumer une lumière. Et le fait de faire pour la vie sur Terre, c'est faut arrêter que ce mot « sauver la planète », parce que on sait bien que la planète, elle va continuer à tourner. C'est,
ah bah oui,
elle, et c'est de préserver la Terre telle qu'elle est. C'est un devoir qu'on a tous. Et agir rend heureux. Je suis persuadé. Quand tu deviens végétarien, ben t'es plus content qu'avant. C'est un peu con ce que je dis, mais tu vois, tu es content de le faire. Voilà. Tu prends ton vélo pour aller prendre ta bagnole, alors que c'est ridicule, mais t'es content de le faire quand même. Tu vois, c'est un effort qui est accepté. C'est pas une privation, en fin de compte. Mm-hmm. Ça te rend meilleur mm-hmm. après. Tu vois, tu te sentiras mieux. Mm-hmm. Alors, bien sûr, ça à grande échelle. Mais moi, par exemple... J'ai 74 ans, j'ai pris l'avion comme plus que tout le monde, donc j'ai vraiment. Enfin, je dois dire, je dois fermer ma gueule là-dessus. Et d'ailleurs, je remercie à ce message pas sympa de gens qui étaient un peu gonflés de dire ça, mais je suis content de prendre le train aujourd'hui. Tu vois, je suis content pour aller à Lisbonne en train, je peux dire que c'est le bordel, mais je suis content de le faire pour aller voir Greta, pour aller en Suède prendre le train. C'est pas facile, mais. Je le fais avec plaisir, en fin de compte. Peut-être qu'il a fallu 74 ans pour que je devienne moins con, c'est sûr.
Non, mais moi, je ressens ça en moi. Mais bon, c'est un micro-mouvement où je trouve que l'avion, ça devient complètement has-been, en fait. Et tu vois, les voyages en avion. Et...
Mais c'est pas has-been si tu vas passer... moi, je me souviens, quand je faisais mon livre sur New York, je partais le matin à 8 heures, je prenais l'avion. J'arrivais à midi à New York. Je prenais l'hélicoptère à 4 heures à 6-7 heures du soir, et je rentrais le soir. Donc je faisais un aller-retour New York dans la journée, t'imagines ? Et j'avais fait quand même 4 heures de travail, j'avais ramené des centaines de photos. Bon voilà, mais qu'est-ce que c'est con, quoi ? C'est comme... Bon, maintenant je faisais un livre, voilà. Ouais. Mais ça, je le ferai plus aujourd'hui. Ça, je parle d'il y a 10-15 ans, mais tu vois. Voilà, puisqu'on peut le faire, pourquoi est-ce qu'on le ferait pas ? Pourquoi est-ce qu'on ne mangerait pas des crevettes qui arrivent de Thaïlande, des avocats qui arrivent du Mexique, de la viande qui a été faite en Afrique ? Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas ? Puisqu'on peut le faire. Pourquoi on ne s'achèterait pas un bouquet de fleurs qui arrive du Kenya ou du Chili, puisqu'il est là et que tu peux lâcher sur ton marché ? Pourquoi est-ce qu'on peut le faire ? Tu vois ? Ben voilà, c'est des choses qu'on peut peut-être tous refuser ensemble, qui est compliqué, parce que le fleuriste, il a besoin de travailler, le boucher a besoin de travailler, le restaurant a besoin de travailler. Voilà, c'est toute une remise en cause. Mais je vois bien autour de moi quand même le nombre de jeunes, toi... 20, 30 ans, qui se remettent en question leur vie complètement, qui essaient de changer le système. Et les gens qui font du bio, ils ont l'air plus heureux que les autres, ça c'est sûr. Les gens qui sont engagés, donc que leur vie est en train de changer parce qu'ils ont pris un autre chemin, ils ont l'air de mieux supporter les ambiantes que les autres. C'est l'impression que j'ai, en tout cas.
Ça, et puis, moi je trouve, enfin, toi qui connais mieux le continent africain que moi, que dans... Il y a une forme d'entraide entre les personnes. Et qui rend vachement heureux, en fait.
Mais, je sais pas si ça rend plus heureux, mais quand tu es dans la merde, bah t'aides les autres. Parce que tu sais que toi, t'auras besoin d'être aidé un jour ou l'autre. Il y a une entraide naturelle qui est là. Maintenant, on voit bien les génocides qu'il y a eu au Rwanda. Faut pas idéaliser les choses. Quand tu vas dans les milieux très simples où les gens n'ont pas beaucoup de moyens, les gens s'entraident beaucoup, beaucoup plus. Ça, c'est évident. Parce que t'as besoin de l'autre et tu sais qu'un jour, t'en auras besoin.
Et même en France, hein, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au continent africain.
Hein, je pensais à la France. Je voulais pas trop en parler. Ouais. Je pensais à la France.
Non, mais et c'est fou, moi, tu vois, qui ai vécu. En cité, en banlieue parisienne, mais après dans le 18e à Château-Rouge, et puis après... Et en fait, tu te rends compte que plus tu vas dans des quartiers cossus, moins les gens s'entraident. C'est incroyable.
En ce moment, je suis en train de préparer mon prochain film qui s'appelle France, une histoire d'amour, on peut en parler si tu veux. Tu
ouais,
veux
ouais. Bien sûr.
Donc c'est vraiment une histoire sur... Alors, c'est un peu long l'histoire, mais on m'a demandé de faire un film sur la nature en France. Et puis la nature en France, elle est tellement difficile à photographier. Je voulais pas faire ça avec des animaux apprivoisés. Donc j'avais dit à Disney qui m'a proposé ce projet, je n'avais pas envie de le faire. Et j'ai rappelé après la personne qui m'a proposé ça de faire un film sur tout ce qui est bien en France. Tu vois, il y a un proverbe allemand que j'adore, c'est « être heureux comme Dieu en France ». Voilà. Être heureux comme Dieu en France. C'est-à-dire que pour beaucoup de pays, la France, c'est un peu le pays, tu vois, du bon vivre pour les Anglais qui, voilà, on le sait tous. Il y a le terroir, il y a les paysages, il y a les lois sociales. Les lois sociales françaises sont incroyables. Moi, je travaille un peu avec des réfugiés, je vois l'accueil qu'ils ont, ce qu'on aide les gens qui arrivent ici. On est comme un pays assez, avec des traditions d'aide assez extraordinaires, parce qu'on a un pays aussi de migration. Et donc, j'ai commencé un travail sur les gens, en interrogeant les gens dans un immeuble pour partir après à travers la France, pour parler de la France qu'ils aiment. Et j'allais un jour à la poste, à Boulogne, et je voyais une dame qui pleurait devant le comptoir et qui parlait de la mort de sa mère. Et elle dit au postier, ben, « Je suis désolé de vous emmerder avec mon histoire. » Et le postier ne me dit, « Pas du tout, madame. Je vous vois pleurer, je vous écoute pleurer. Ça me fait du bien de vous écouter. Et ça vous fait du bien à vous, ça me fait du bien à moi aussi. » Et j'avais été ému presque, bon, je suis facilement ému, par l'empathie de ce type à travers à cette dame. Et donc, en parlant après au directeur de la Poste de Boulogne, il m'explique qu'il y a le rôle des facteurs incroyable. Et donc, on a décidé ensemble, je te fais bref, j'ai accompagné les facteurs à faire les tournées en France. Et le facteur, il a une vraie mission, quoi. Il va apporter le courrier, apporter les lettres, les bonnes et les mauvaises nouvelles. Et la tournée, elle appartient au facteur. Un facteur qui fait une tournée, ça lui appartient. On ne peut pas le virer. Donc, il garde sa tournée toute sa vie tant qu'il a envie. Il y a des facteurs, il y en a à côté de chez moi, puis il fait la même tournée depuis 30 ans. C'est génial. Donc, il a vu des enfants petits,
bah ouais,
et maintenant, il voit les enfants avec leurs enfants. Ouais, ouais. Et donc, il s'est créé des relations humaines extraordinaires. Et le rôle des facteurs en France, c'est formidable. Et donc, on va lancer un projet que j'adore. On va demander à tous les facteurs de France de faire une photo de leur français préféré sur leur tournée en posant des questions. Mmh. Et le projet est lancé, ça va se faire là en avril avec la Poste. Et ils font la photo, en fin de compte, avec leur Facteo, l'appareil avec lequel ils scannent les colis, tu vois, et qui fait des photos. Et la photo est géniale. Donc on a lancé ça. Pour l'instant, on a assez d'enthousiasme. J'espère que les facteurs vont jouer le jeu. J'en ai vu pas mal. Ça les amuse. Et j'ai fait quelques tournées, mais j'étais fasciné par le travail. D'abord, ils bossent comme des fous. Les mecs, ils commencent à 7h du matin. Ils font le tri. Ils partent faire leur tournée. Ils arrêtent à 3-4h l'après-midi. Ils ont 300 ou 400 maisons chacun à livrer. Donc, ils descendent de la bagnole avec des colis. Puis aujourd'hui, alors, ce que j'ai appris qui m'a fasciné, c'est que Amazon est le plus gros client de la Poste. Quand tu vas au centre de tri de Méré, de la gare de Méré où je suis, avant Noël, tu n'as que des paquets Amazon. Et le facteur, avant, il démenait des lettres. Aujourd'hui, il faut qu'il sorte de la bagnole, ouais, il fait le tour, il prend le truc, ouais. Il l'apporte. Il travaille comme des malades. Et c'est physique. La factrice avec laquelle je travaille, elle ne marche pas, elle court, parce qu'il faut qu'elle aille vite. Ouais. Je n'arrivais pas à la suivre quand je la filmais. Et donc, voilà, je suis un peu complètement envahi par ces histoires de facteurs et la France aujourd'hui. Et là, en juin, juillet, août, on va partir à travers la France, monter des studios photos et on va se servir des retours de ces facteurs pour parler aux Français qui nous intéressent, aux Français qui font des choses pour les autres, ceux qui partagent, ceux qui aiment, puis ceux qui sont, voilà, je suis un peu envahi. Tu sais, quand tu fais un film, tu rentres dans une histoire. Là, j'étais envahi par Legacy pendant un an. Je peux dire, j'ai vraiment souffert. Ouais, j'ai vraiment souffert, je dois le dire. Tous ces chiffres, en écrivant ce film, puis aussi, c'est toujours quand tu as une période de création, tu t'essayes plein de choses. Moi, je suis quelqu'un qui essaye. J'écris jamais rien à l'avance. Donc, on part un peu dans une feuille blanche. Et quand je commence un film, je dis, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Tu vois, je savais un peu pas ce que j'ai raconté. Mais quelle est la forme que ça va prendre? Et comme c'était pas bien préparé, parce qu'on ne sait pas faire autrement, j'ai besoin d'être dedans, plongé dedans pour le faire. On prend toujours beaucoup plus de temps que peut-être que les autres. On a travaillé un an sur ce film. Et j'ai besoin d'en sortir aujourd'hui. J'ai besoin de sortir, de parler d'autre chose, de rencontrer des gens.
Et d'être dans le bonheur.
Oui, ouais, mais dans le bonheur, c'est vrai. Il y a des moments où tu as envie de... Ça m'a donné un coup sur la tête, ce film, je dois reconnaître.
Mais il donne un coup sur la tête, de toute façon. Et en même temps, le film dont tu parles, il est plus léger et plus léger dans le sens où on est sur l'humain et on est sur de la bienveillance, de l'empathie. Et c'est vrai que le facteur, pour moi, ou la factrice, C'est une personne qui, pour beaucoup de gens, est le contact humain le plus important. En fait, on le voit plus souvent que ses propres enfants, on le voit plus souvent que parfois ses amis.
Non, ce que j'ai adoré avec les facteurs que j'ai rencontrés, alors c'est peut-être idiot ce que je dis, mais on a l'impression qu'ils sont en mission. Et qu'il n'est pas question qu'un colis n'arrive pas le jour où on lui ordonne, et qu'ils aiment leur métier, mais profondément. Alors, ils gueulent contre la direction tout le temps, parce que c'est très syndiqué, c'est fort, hein, les facteurs. J'ai vu quand j'arrive qui vous êtes, est-ce que vous avez le droit de filmer et tout. Et tu crées des relations, et ils sont tous passionnés par leur travail. Puis ce que j'avais appris aussi, c'est qu'ils sont facteurs souvent de père en fils. Ma factrice, elle a épousé un facteur, son grand-père était facteur, et ma factrice qui était avant, il y a le gendre que je vois tous les jours. Donc tu vois, il se passe, c'est un truc de métier, une espèce de corps, voilà, un peu à part. Et j'adore faire ça. Voilà.
Et pour revenir à.
Et c'est ce métier. C'est aussi la force de ce métier de journaliste. C'est quand tu rentres, ça te permet de pénétrer un monde que tu ne connais pas. C'est un métier de curieux. J'ai souvent, quand les jeunes photographes viennent me voir, j'ai envie de devenir photographe et tout. Qu'est-ce que tu veux faire ? Photographier quoi ? Souvent, ils ne savent pas ce qu'ils veulent photographier. Mais ce qui est important, pourquoi tu fais ce métier ? Tu veux être photographe de mode, photographe de quoi ? D'industriel, photographe animalier, photographe de sport. Ça te permet de pénétrer un monde comme personne ne peut le faire. Et moi, j'ai eu des aventures. J'ai passé une heure avec le pape. J'ai travaillé avec les gorilles avec Diane Fossey. C'est grâce à mon métier que j'ai pu faire ça. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Donc, ce métier t'amène. Et faut pas. Et je dis souvent aux jeunes, ça va être très difficile parce que c'est plus compliqué d'être photographe ou réalisateur aujourd'hui que peut-être qu'il y a une vingtaine d'années et encore. Mais si tu as envie de le faire, essaye-le. Essaye. Parce que le journaliste, c'est un métier formidable. C'est génial. Regarde ce que tu fais aujourd'hui avec moi. Voilà, toi, on est à la rencontre.
Ouais, on serait jamais rencontrés. En l'occurrence.
Non, mais on s'enrichit l'un l'autre. Sûr. Et voilà, et ça te permet de rencontrer des gens qui sont souvent, je suis ravi de t'entendre et de t'écouter, tu vois.
Moi aussi. Pour revenir sur Legacy, et aussi, je me faisais la réflexion par rapport au bouquin, et t'en parles d'ailleurs dans le film L'interview du ciel, qui a été pour toi une transformation radicale, en fait, quelque part. C'est un peu osé ce que je vais poser comme question, mais tu me dis si. Vas-y. Mais quelque part, parce que ce bouquin qui est incroyablement beau, je pense qu'il a développé des. Qui a créé beaucoup de gens qui ont voulu faire de la photo grâce à ces livres, à ce livre et puis au suivant que tu as fait, je pense à l'Algérie entre autres. Et en même temps, ça nécessitait de prendre l'hélicoptère, de prendre l'avion, etc. Et comment tu regardes ça aujourd'hui, à 76 ans ?
Je pense qu'aujourd'hui, quand j'ai commencé ce film en 1992, on ne parlait pas de changement climatique, du tout. Assez curieusement, le changement climatique, c'est un jour, quand j'ai fait l'exposition à la Terre du Ciel, rue de Médicis, dehors, on avait inventé les expos dehors, ce qui a été d'ailleurs, on va peut-être en parler, mais ça a été le début du succès, je suis devenu un homme public. Un jour, il y a un touriste allemand, je me souviens, qui vient me voir, il me dit, est-ce que vous avez pensé aux énergies fossiles que vous avez dépensées, sauf faisant votre musique, de quoi il parle ? Il commence à m'expliquer, on parle en l'an 2000. Et j'y avais jamais pensé. Et dans les livres, dans La Terre du Ciel, il n'y a pas un mot sur le changement climatique, le premier. Parce qu'on n'en parlait pas. C'est vraiment Al Gore qui, le premier, a mis ça en avant. De façon inouïe, d'ailleurs. Il a fait un travail absolument inouï là-dessus. Avant, et les gens ont oublié ça. Alors, il y avait Kyoto, mais qui avait été signé avant. Mais Voynet m'expliquait qu'il avait signé l'accord de Kyoto, qu'il y avait un seul journaliste français qui était venu avec elle pour signer l'accord de Kyoto. T'imagines aujourd'hui, quand il y a la COP21, t'as des milliers de journalistes, toi. Il y avait un journaliste. Donc voilà. Et bien sûr qu'aujourd'hui, d'abord, je ferai pas pour deux raisons. D'abord que maintenant, t'as les drones. Aujourd'hui, c'est ridicule de prendre un hélicoptère. Alors, le drone n'existait pas. Drone, c'est assez inouï. La façon de travailler avec un drone, la technique a changé les choses. C'est pas la même chose. Tu peux pas faire un livre quand l'Algérie vit du ciel en drone. T'auras pas la même chose. Mais on doit tous travailler d'une façon différente aujourd'hui, c'est évident. Voilà. Avec le recul, je ne le ferai pas, tout est évident. Mais il n'y avait pas de drone, mais voilà. On n'avait pas cette conscience écologique. Voilà, on parlait de sauver les éléphants, la déforestation, la qualité de l'eau, mais on ne parlait pas du tout de changement climatique, du tout, devenait fossile, en tout cas moi. Et pourtant, je disais chaque année le bouquin de Lester Brown, qui était le World Watch Institute, qui est une espèce de bible. Il faut dire aussi le livre sur l'écologie. Aujourd'hui, j'en reçois 4 par semaine, au moins. Livre, toi, t'en as fait un, donc tu vois.
Il y en a beaucoup.
Voilà, toi. Mais à cette époque-là, il n'y avait aucun livre sur l'écologie. Il y avait le bouquin de Jean-Marie Pelt, qui parlait des insectes, des animaux. Mais il n'y avait que ça. C'est incroyable. Aujourd'hui, on est tous submergés par la littérature philosophique, morale, tu vois, scientifique, animalière. Tu vois, chacun met de cuisine, tu vois, sur le faire du durable, faire du responsable, faire de l'écolo, quoi.
Ah, mais c'est un changement de société, mais c'est ce que tu disais, ça prend du temps. Et en fait, toute la question, c'est... comment on peut accélérer le mouvement, finalement?
Mais le problème, c'est qu'on pense qu'on va faire de l'écologie avec le progrès. Enfin, quand il faut de la low-tech.
Oui, bien sûr.
Voilà, il faut low-tech, c'est-à-dire pas de technologie, au contraire. Ouais. C'est de revenir à une technologie différente. On a l'impression qu'on va pouvoir, et d'ailleurs quand j'en parle à mes copains, ah, mais tu comprends, on est en train, et la voiture hydrogène, qui d'abord,
c'est un concept, hein.
Non, c'est un concept, hein. Moi, c'est plus 20 ans où j'entends pas la voiture hydrogène, non, je suis au courant. Et on a toujours, on parle, le plastique. T'as des mecs qui disent, ouais, mais il y a des gens qui ramassent le plastique sur les plages, il y a des bateaux qui ramassent le plastique. Mais les gens ont pas compris. Non. La mer, c'est quand même deux fois la surface de toutes les mers, de toutes les terres. C'est gigantesque. Et quand tu vois que la mer est bourrée de plastique, ce plastique, il est là. Il ne partira jamais de la mer. Il sera toujours là. On ne nettoiera jamais le plastique dans la mer. Il y a des espèces d'idées comme ça, des concepts, un peu de marketing presque. Alors qu'il y a des gens qui partent, comme le bateau Tara, qui est formidable, faire une étude là-dessus. Là, c'est bien. Mais il ne faut pas dire que ces bateaux vont ramasser le plastique sur les océans. Non. C'est bidon. On peut ramasser sur les plages. On peut envelopper tout en plastique. On peut arrêter de le jeter dans la mer, mais le plastique dans la mer, malheureusement, il restera jusqu'au bout. Voilà. Il y a comme ça des concepts de tu vois, voilà, bon, c'est un peu comme mettre le CO2, de CO2 le remettre dans la terre. Mais comment tu veux mettre le CO2, le capter, le carbone des centrales pour le remettre dans la terre? C'est bidon. D'ailleurs, ça fait 20 ans qu'on en parle. Je voudrais savoir quel est le carbone qui a été remis dans la terre. Ça n'existe pas. Tu vois, on est tellement content d'avoir des espoirs. C'est comme le film Demain, qui est un film formidable. Et Cyril Dion est un copain, donc je le dis avec tendresse. Mais tu vois, les gens, oui, disons, oh, mais tu vois, regarde, t'as vu le film de Cyril Dion? Tous les gens font, il y a tellement de choses qui s'engagent. Oui, mais toi, tu fais quoi? Voilà. Et tout ça, c'est ça, je veux dire. On a l'impression que ce que tu vois comme exemple dans les journaux, parce que les journaux, mais qui mettent un peu de choses positives de temps en temps, on en parle beaucoup, mais c'est rien par rapport à ce qu'on devrait faire.
En fait, je crois que pour déconstruire l'idée de l'innovation ou du progrès, qu'on a transformé en innovation, c'est, je prends l'exemple des routes, tu vois, en fait, il y a une idée, et on a eu cette idée pendant des années, que plus tu rajoutes de routes, moins il y aura de bouchons.
Parce que tu sais que les routes, c'est du pétrole, quand même.
Oui, alors les routes, d'abord, c'est du pétrole.
J'imagine le nombre de bitume, de pétrole, de CO2, alors ça n'a pas été brûlé, donc le CO2 est resté là, sans
mais
doute
ça,
là.
Mais ça génère des microbilles de plastique, par contre.
Et puis en plus, ça a été chauffé, donc tu perds un peu de carbone, mais t'imagines, j'ai pensé l'autre jour, j'avais pas pensé aux millions de tonnes de carbone, de goudron qu'on a mis sur les routes, quoi, dans le monde entier.
Alors il y a ça, mais surtout, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que plus tu rajoutes de routes, c'est pas vrai qu'il y a moins de bouchons, il y a de plus en plus de voitures. Et la réalité, c'est que l'innovation, ce qu'on appelle l'innovation, c'est que si on te donne plus de possibilités, j'en sais rien, de la 5G, si on te donne, je sais pas, des technologies nouvelles, par exemple, si on invente demain l'énergie de fusion, tu vois qu'on y arrive, en fait, ça serait la plus mauvaise nouvelle pour l'existence de la vie sur Terre, parce qu'en réalité, l'énergie de fusion, donc l'énergie du soleil, on travaille dessus dans le sud de la France, c'est possible, en tout cas, on essaye de le faire. Mais si on y arrive, on va finir de tuer l'intégralité des autres animaux, en fait.
Pourquoi?
Bah parce qu'on va continuer à consommer de la même manière. Parce qu'en fait, ça va faire fonctionner les bateaux, ça va faire fonctionner un peu tout.
Ouais, mais c'est une fusion électrique, je pense pas. Je pense qu'une fusion électrique, je pense qu'on va stabiliser la population. Je pense pas qu'on va monter indéfiniment. Moi, je pense que l'éducation montre bien qu'aujourd'hui, en France, dans tous les pays modernes, on a moins d'enfants. Je pense qu'on va stabiliser 8, 9 milliards. Et si on estime que de l'énergie électrique qui est fabriquée par le soleil, là, c'est bien. Parce que si c'est du charbon, parce que.
Ah oui, non, mais ça, c'est sûr.
Moi qui ai une voiture électrique, même, tu vois. Alors, on dit, ouais, t'as une voiture électrique, t'as pensé, là, recyclage des batteries. Bon. Tu dis, c'est vrai que les gens te disent tous ça.
Bien sûr, bien sûr.
Parce qu'il faut toujours trouver quelque chose pour dire que toi, t'as ma gueule diesel, donc t'as ma gueule électrique, donc pour moi. Je dis, d'accord, donc je me suis renseigné sur les bagnoles électriques, comment c'est fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on recycle pas les batteries. C'est vrai que les voitures sont beaucoup plus lourdes, donc il faut plus gros moteur. Mais en même temps, aujourd'hui, les batteries, on s'en sert beaucoup plus longtemps. On pensait que les batteries, on allait servir, toi, 5-6 ans. Aujourd'hui, on peut servir 15 ans. Donc aujourd'hui, les batteries, on peut les mettre dans des conteneurs et se servir pour stocker l'électricité, ce qui est pas con pour les gens qui ont des éoliennes. Mais si tu as une bagnole électrique en France, génial, tu es au nucléaire. Mais c'était une voiture électrique
en Allemagne.
Ouais. Bah, c'était au charbon. voiture électrique en Chine, t'es surtout au charbon. Donc, bah, c'est comme la bagnole à essence. Tu vois, cette espèce de faux espoir qu'on bassine tout le temps. Bah, il y a ça qui va arriver. Tu vois, la viande, on mangera jamais de la viande chimique ou la viande fabriquée. Tu vois, là, ce qu'a acheté Bill Gates, là, cette viande végétale. C'est assez bon d'ailleurs, hein, je dois reconnaître.
Ouais, c'est bon.
Hein, c'est assez bon. Mais ça pourra jamais remplacer la viande qu'on consomme tous les jours. Il y aura toujours, malheureusement, ce qu'il faut, c'est pas se dire, je vais continuer de la viande en prenant que de la viande industrielle ou de la viande chimique. Voilà, faut réduire tout simplement.
Mais comme il faut réduire les trajets en voiture, il faut réduire sa consommation d'énergie.
Voilà, exactement.
Donc, cet podcast s'appelle Vlan. Donc, j'aimerais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte ou ne pas.
Alors, j'aimerais bien être moins con. Donc ça, j'aimerais bien ouvrir la porte là-dessus et donner un grand Vlan à mon ego. À la supprimer mon ego. L'ego, ça t'empêche de peut-être d'être un peu plus généreux et d'être meilleur. Voilà. Tu sais, d'abord, je me suis aperçu d'une chose, moi qui étais très ambitieux, voilà, on parle d'ego, donc tu vois, l'ambition, je m'aperçois que réussir sa vie professionnelle, c'est pas si compliqué. Bon, j'ai eu de la chance, beaucoup de chance, mais quelque part, bon, je suis rêvé à ce que je rêvais d'être, et même plus, je dois reconnaître, mais réussir sa vie d'homme, un peu plus compliqué quand même, tu vois. Mmh. Et réussir sa vie d'homme, c'est d'être un homme debout, un homme parfait, quoi, tu vois, ça c'est le graal impossible, ça n'existe pas, ça.
Et
il y a une phrase que m'a dit pendant que je faisais ce film Human, qui est peut-être, tu sais, ce film, en fin de compte, je suis parti à l'aventure, l'histoire est longue, mais quand j'ai eu un jour une panne d'hélicoptère dans un village au Mali, et je suis resté 3 jours avec une famille qui m'a raconté sa vie, ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance, les gens qui ne vendent rien, tu vois, les gens qui sont loin de tout. À l'époque où il n'y avait pas le téléphone portable, ils sont loin des nouvelles du monde, ils ne connaissent pas grand-chose. Par contre, une connaissance de la nature inouïe, quoi. Ils savent t'expliquer les graines, comment les choses poussent. Et j'ai passé 3 jours incroyables, ils m'ont raconté leur vie, leur angoisse. Simplement, si je suis malade, eh bien, je ne peux pas travailler. Si je ne peux pas travailler, je ne peux pas nourrir ma famille. L'angoisse de la mauvaise météo, parce que la mauvaise météo, c'est leur vie qui en dépend. Et en sortant de ces 3 jours, j'ai des gens que je n'ai jamais revus, parce qu'ils n'avaient pas le numéro GPS, je n'avais pas d'adresse. Et ça, c'est une chose que je regrette de ne pas avoir vu ces gens. Ça a changé ma vie, que j'ai décidé de faire ce travail qui s'appelait 6 milliards d'autres. Je me suis dit, dans mon travail, il me manque la parole des gens. Et la beauté, elle est là, elle est dans la parole, elle est dans l'action. Et donc, on a pensé à réaliser ce travail qui s'appelait 6 milliards d'autres au départ, que je voulais faire moi, que j'ai pas fait parce que le succès de la Terre du Ciel m'a emmené ailleurs. Et donc, j'ai engagé 6 jeunes qui sont partis autour du monde de chercher qu'est-ce que c'est que le bonheur, quoi. En gros, mais avec d'autres questions, quelle est votre religion, qu'est-ce que vous mangez. Et on a fait ce travail qui s'appelait 6 milliards d'autres, que j'ai adoré. On a fait une grande expo au Grand Palais qui était un gros succès. Et un jour, j'ai voulu faire un film qui mettait ensemble ces paroles de ces gens et qui posent toujours la même question face à la caméra qui regarde droit dans les yeux et les paysages de la Terre du Ciel. Donc c'est le film Human qui est pour moi un des meilleurs films. Et il y a une chose qu'on n'a pas mis dans le film parce que c'était un peu compliqué, ça, on n'arrivait pas à le mettre. Et c'est une phrase que m'a dit une femme malgache à laquelle je pense tous les jours. Tous les jours j'y pense. On lui avait demandé quel est votre plus grand rêve. Et c'est une question qu'on pose dans toutes les... C'est une dame qui ne parlait pas, qui ne savait pas lire, pas écrire, qui parlait le dialecte dans le sud de Madagascar, qui était assez compliqué, on passait par un traducteur, tout était complexe. Et on dit, quel est votre plus grand rêve? D'abord, quel est le rêve de quelqu'un qui n'a pas à manger, qui était en mode de survie? C'est compliqué de l'expliquer, j'allais traduire le bon mot. Mmh. Et alors, on parle, et elle réfléchit, elle me regarde droit dans les yeux. Elle me dit une chose qui me poursuit tous les jours. Elle me dit « j'aimerais mourir avec le sourire ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va tous mourir un jour, qu'on va accepter sa mort et qu'on est fait de sa vie, on est content de sa vie, qu'on est content de la vie qu'on a eue et ce qu'on a fait. Et c'est impossible, bien sûr que c'est impossible d'être content de ce qu'on a fait. Mais dans le monde actuel d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, ça nous permet très facilement de donner du sens à ce qu'on fait. Mmh. Parce que toutes nos actions quotidienne ont une action sur la vie sur Terre. Et donc, de faire le maximum de ce qu'on peut faire pour préserver la vie sur Terre, peut-être peut te permettre de mourir avec le sourire.
Et ça, c'est une belle fin.
Moi, j'ai ma vieille tante qui a 102 ans, qui est mon idole. Elle a 102 ans, elle lit la croix tous les jours, elle sait tout ce qui se passe, elle te parle de politique, de social. Elle est incroyable, elle lit beaucoup, elle est extrêmement pointue, tu vois, brillante et... Et souvent, je vais la voir, pas assez souvent. Et la dernière fois que je vais la voir, je vais dans sa maison de retraite, elle a 102 ans, une espèce d'EHPAD. C'est pas rigolo, les EHPAD, hein. Que ça sent le pipi, t'as des gens qui crient dans les couloirs, il y a des couches entassées, c'est pas marrant. Et t'arrives chez elle, dans sa chambre, elle arrive toujours avec un grand sourire. J'ai dit, mais comment tu fais quand je viens te voir, j'appelle tante Yvonne, comment tu fais pour être toujours joyeuse et avec un sourire? Et elle me répond du tac au tac, sans réfléchir, Yann, c'est pas difficile, je pense pas à moi, je pense aux autres. Ça sort comme ça. Tu te dis, 102 ans, c'est pas difficile. Je pense pas à moi, je pense aux autres.
Je pense que
c'est la clé. Ouais. Je pense que ça, c'est la clé du bonheur. Et je pense que c'est la personne que je connaisse la plus heureuse et qui a moins peur de la mort que je connaisse.
Même parce qu'en fait, tu vois, pour passer de l'idée à l'autre, mais tu meurs avec le sourire quand tu fais ça, voilà, nécessairement.
Exactement. Tu vois.
Nécessairement.
Et t'as pas peur. T'as pas peur parce que tu.
T'as fait ce que t'as pu.
Voilà, t'as donné, t'as partagé. Et. Alors moi, je découvre ça tard. Hein. Je te dis pas que j'ai toujours jamais, j'étais pas comme ça. Mais aujourd'hui, voilà, je me force, je m'oblige. Et puis il y a tellement de gens qui le font, quoi. Dans l'époque du Covid, en ce moment, tu vois toutes ces infirmières qui se dévouent, qui travaillent pour les autres. Souvent, je suis fasciné par les gens qui parlent pas, qui passent pas à la radio, passent pas à la télé. Qu'est-ce qu'ils font pour les autres, quoi. Mmh. Moi, je suis rien là-dedans. Voilà, tu vois. Et c'est faut le savoir, ça. Voilà.
C'est vrai que c'est des choses qui sont essentielles. Ce qui est certain, et ce que les gens ne réalisent pas toujours, c'est que quand tu donnes, c'est la personne qui donne qui récupère le plus, en fait. C'est
vraiment plus tu donnes, plus tu reçois. Ça, c'est vraiment. Mais moi, j'ai parti.
Mais rien que le fait de donner, en fait, ça te rapporte énormément.
Mais tu vois bien, quand tu achètes un cadeau, que tu veux faire plaisir à quelqu'un, tu es encore plus excité par la personne qui va ouvrir le cadeau, où ça va lui faire plaisir,
bien
que
sûr.
Lui, ça lui fait plaisir. Tu vois.
Bien sûr.
Ben, c'est de l'ego aussi, ça. Attention.
C'est vrai, quelque part.
On n'en sort pas.
Toujours. Parfait. Merci beaucoup à toi. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg From Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.